cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 16 février 1995.
D'abord, je demande à ceux qui ont suivi le cours de tout à l'heure s'il y a des questions. Moi, j'aurai des questions à poser après, je peux les dire tout de suite pour que ça ne se chevauche pas. J'aimerais leur poser leurs questions. Alors, ils ont dit ça en tant que savants. C'est vrai. C'est des conclusions. Oui, en tant que savants encore. Voyez-vous, en réfléchissant là-dessus, la grande question philosophique, peut-on préciser, en raison de ces données-là, à quel moment l'âme créée par Dieu semble devoir être créée? Ou est-ce qu'on ne peut absolument pas le déterminer? Voyez, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, constatation, ce que vous avez dit au terme, ce serait intéressant de préciser du reste davantage. Puisque chaque fois qu'on avance quelque chose, on doit le dire comment on l'a connu. Quels ont été les instruments qui ont permis de conclure ça? En connaissance biologique, au fond, on cherche un développement rationnel du premier moment de la conception jusqu'au moment de la naissance. Et au fond, on essaie d'avoir un développement le plus rationnel qui soit au point de vue organisme de cet être nouveau, de ce nouveau vivant qui est l'homme, le plus complexe de tous les animaux que nous pouvons connaître, n'est-ce pas ? Complexité très grande en raison du cerveau, je crois, avant tout. Alors, est-ce qu'on peut préciser un moment où ça apparaît nécessaire ou pas?
C'est une bonne question.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je dis que c'est une bonne question.
Mais je crois que pour nous, c'est la question qu'on doit se poser.
Oui, tout à fait. Je dirais que les observations qui ont été faites disent, à mon avis, rien sur l'âme. Elles disent rien.
Rien du tout. Absolument pas.
Non, elles disent rien du tout. Je crois que
c'est un vivant qu'on regarde.
Oui.
Et tout s'explique de façon organique avec le développement des organes successifs.
Hein? Je pense que...
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Je crois qu'effectivement, on voit tout suivant un devenir génétique, enfin que tout est contenu dans les gènes. Je crois que, en fait, le biologiste, enfin, ce que frère Alexandre a bien montré, c'est l'ébauche, c'est ce qu'on appelle l'organogénèse.
Oui, oui.
Et qu'à partir d'un certain moment, bon, on voit que le cœur, enfin que les organes commencent à être formés, que le cœur commence à battre, mais que, en fait, le fœtus n'est toujours pas viable. En fait, pour le biologiste, on passe, enfin, c'est vraiment les stades qu'on a donnés. Quoi, un stade d'œuf, un stade d'embryon, un stade fœtal. Et à partir d'un certain moment, le fœtus est viable.
À quel moment?
Donc on a dit vers la 28e semaine.
28e semaine. 6 mois. Et alors, est-ce qu'on pourrait poser la question autrement? Peut-on voir dans ce développement une autonomie de plus en plus grande? Par rapport au milieu maternel dans lequel il se trouve, est-ce que c'est, n'est-ce pas par là qu'on pourrait préciser qu'il y a un moment où l'autonomie semble parfaite, puisqu'il peut vivre dans sa mère?
Je crois que, enfin,
Je sais pas, il y a un moment, effectivement, à partir de, on considère 6 mois. Donc on dit qu'on considère qu'à 6 mois, l'enfant est viable, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre
sans la mère. 24e, ça fait combien de semaines ?
Ça fait 25, 28.
Il y en a qui sont plus précoces que d'autres.
Voilà. Mais disons qu'il y a paraît-il des cas un peu où, bon, à 5 mois et demi, 5 mois même. Mais disons qu'il faut savoir que dans les 3 derniers mois, c'est-à-dire de 6 à 9, il acquiert entre autres un début de défense immunitaire qu'il n'a pas. Donc il est très très, à 6 mois, il est quand même très très vulnérable vis-à-vis de l'environnement.
Il est encore très vulnérable, mais il a son autonomie.
Il a quand même un déficit de poids important par rapport à... Alors, le fait qu'on considère un enfant prématuré, on considère qu'un enfant est prématuré en deçà d'un certain poids,
oui,
qui est propre à chaque pays.
Ouais.
Alors, dans les pays développés, ce sera autour de... C'est propre au niveau de développement de chaque pays. Allez, je sais que dans les pays... Bon, j'ai pas de chiffres. Hein. Je crois que les pays développés européens et américains, je crois...
C'est autour de... avant l'Europe.
Je crois que c'est à peu près... Je crois que c'est autour de 2,8 kg, quelque chose comme ça, 3 kg à terme. Mais je sais que dans les pays sous-développés, c'est un peu plus faible. Ça va autour de 1,8 kg.
Donc plus les pays sont développés...
Plus l'enfant naîtra avec un poids important.
Une autonomie plus grande.
Et il aura une autonomie plus grande, bien sûr.
Parce que je crois qu'il y aurait deux points de vue qui permettraient de poser la nécessité de poser une âme spirituelle, il ne faut pas l'oublier. C'est cette question de l'autonomie et des organes typiques propres à l'homme. Et on ça va ensemble presque. L'autonomie.
Oui, tout à fait.
Quoi ?
Oui, bien sûr.
Ça va. Donc c'est le point qui permettrait le plus de poser à cette. Mais c'est au fond assez tardif.
Bah, je crois qu'effectivement, enfin, les liens entre la mère et le fœtus sont quelque chose. Enfin, qui sont.
Tellement fort.
Enfin, c'est très fort parce qu'on voit qu'en fait. La mère va diminuer son propre système immunitaire pour que le fœtus soit vraiment accepté et ne soit pas un corps étranger. Donc en fait, bon, c'est vrai que d'un certain côté, on considère qu'il y a une autonomie qui est plus grande puisque le fœtus sera viable. Mais en même temps, le lien qui est avec sa mère est quand même très, très profond, quoi. Enfin, tous les échanges, c'est vraiment, ça passe de la mère et
ça va en croissant.
Bah, quantitativement, parce que le fœtus a besoin de plus de...
Quantitativement.
A besoin de plus de nutriments, besoin de plus d'oxygène. Mais en même temps, on voit qu'à partir d'un certain moment, les organes du fœtus commencent à fonctionner. C'est-à-dire qu'on considère que le fœtus, à partir de la 25e semaine, je crois, commence à respirer. Alors, ce n'est pas un mouvement de poumon, mais il y a une circulation, donc il y a des échanges gazeux qui se font. Donc là, effectivement, il y a une autonomie. Parce que c'est lui-même qui respire, mais en même temps, ça vient de la mère.
Oui. Donc, il se meut pas entièrement. Voilà. Parce que si c'est se mouvoir qui est caractéristique du vivant et son autonomie, c'est vraiment l'autonomie. Oui, oui.
Si on saisit de l'extérieur, l'émergence d'opérations qui sont propres à un degré de vie au-delà de la vie végétative, est-ce qu'on ne peut pas dire que comme il y a une complexité d'opérations qui se manifeste, on doit dire que ça manifeste la présence de l'âme, que ce serait quelque chose de possible? Ou est-ce que l'émergence de ces opérations se fait postérieurement à la 25e semaine?
Je crois que le fœtus n'a que des opérations de vie végétative.
Non, mais moi aussi.
Mais si on dit qu'il peut sentir, puisqu'on disait que c'était pour l'avortement...
Oui, mais si.
Alors, en fait, c'est
une réaction biologique.
C'est une réaction biologique.
Oui. à mon avis.
Et puis, instinctive. Quand on parle des organes de sens, c'est biologiquement que les organes sont... Enfin, biologiquement, l'œil est apte à voir à la naissance. L'oreille est formée. Mais en fait, le sens en lui-même... Il faut considérer, je crois, la différence entre le sens biologique et puis le sens tel que le philosophe peut le dire.
La sensation. Voilà. Là, on ne peut pas dire sensation, parce qu'on n'a pas de conscience. Voilà.
L'émergence du mouvement local, par exemple.
Oui, au fond, la connaissance, c'est la connaissance développée de la cause matérielle. Du côté de la cause matérielle, il y a un développement qu'on peut préciser, mais l'aspect formel du vivant homme, je crois qu'on ne peut pas le préciser. Ben, c'est ce qui me semble, mais j'ai...
Je voulais préciser une petite chose aussi. Il faut savoir que l'enfant, quand il naît à 9 mois, donc c'est la date optimale, parce qu'au-delà de 9 mois, il sera dans une enceinte trop confinée.
C'est dangereux.
Et ça devient dangereux pour lui.
Ouais.
C'est ça d'ailleurs qui déclenche
pour
en fait l'accouchement.
Pour la mère.
Et pour la mère. Et avant, c'est trop tôt. Il faut savoir que l'enfant, quand il naît, on peut dire qu'il n'est pas terminé, dans le sens où, par exemple, au niveau du cerveau, les premiers moments de sa vie, il va y avoir... développement de connexions, ce qu'on appelle des connexions entre les neurones. Bon, il possède un certain stock de neurones qui sont fixes, puisqu'en fait le neurone est une cellule nerveuse qui ne se reproduit pas, qui ne peut pas se diviser. Et en fait, tout le développement de l'embryon, enfin de l'enfant, son développement intellectuel, je dirais, va se faire par des connexions, c'est-à-dire des liens entre les neurones. Et plus il y aura de liens, plus son système, je dirais... Son intelligence se développera. Donc c'est... Enfin, son cerveau. Et en fait, tout le rôle de je dirais, du... J'espère que je ne vais pas dire de bêtises cette fois-ci. De l'éducation sera, en fait, de développer ces connexions, ces liens.
La première éducation.
Première éducation, tout à fait. Donc en fait, c'est dans ce sens-là, biologiquement, on peut considérer qu'il n'est pas terminé. Quoi. La fontanelle qui n'est pas fermée, ça c'est pour une autre raison.
C'est une autre raison, oui.
C'est pour que le cerveau puisse, enfin la tête puisse passer dans le col de l'utérus. Enfin, l'enfant n'est pas complètement terminé. Et la preuve, c'est qu'il acquiert une certaine immunité dans les premiers mois de sa vie, je dirais, vie aérienne.
Oui, dans le monde,
dans le
cosmos.
Il naît sans une... à sa naissance, il bénéficie de cellules immunitaires de sa mère.
Ah oui, de sa mère, c'est pas de lui.
Ouais. Il commence à en avoir un petit peu, mais disons que la majorité sont maternelles.
Et c'est là où la dépendance reste plus longtemps. Mm-hmm.
Ah oui.
L'aspect de la défense.
Oui, tout à fait. Enfin, il y a une défense partielle. Parce qu'au niveau du placenta, il y a certaines substances qui peuvent passer, entre autres les molécules.
Et qu'est-ce que vous dites alors comme réaction, vous, quand on dit, par exemple, on est nécessairement là, mais est au point de départ, en tant que un regard purement scientifique?
Je crois que c'est très dangereux de dire ça, parce que ça veut dire que si un jour, les recherches génétiques aujourd'hui, en fait, pour toutes les maladies génétiques, c'est de chercher quels sont les gènes qui sont mis en cause, et donc d'essayer de voir quelle est la séquence qui ne sera pas, enfin, qui n'est pas bonne, et de la corriger. En fait, si ça veut dire que si les recherches aboutissent et qu'on est capable de corriger génétiquement, parce que en fait, on fait une carte génétique de la mère, du père, et on voit les risques qu'il peut y avoir. Par exemple, on sait que l'hémophilie est transmise, est transmise par la mère, essentiellement. Donc, en fait, si un jour on est capable de corriger le génome, le chiffre biologique d'un embryon, très tôt, ça veut dire qu'on serait capable d'influer sur l'âme, si on assimile la présence du chiffre biologique et la présence de l'âme. Donc moi, ça me semble très... Enfin, un peu...
Et si l'âme était créée dès le point de départ, l'influence des gènes, on l'expliquerait très difficilement.
Oui, et puis en plus...
Bah, c'est ce qui me semble. Donc tout l'atavisme serait très difficile à expliquer.
Enfin, je crois qu'il y a ça. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi que... Enfin, avec le nombre d'avortements naturels qu'il y a, en fait, où on voit que... Enfin, quand on prend un embryon qui est très jeune... Enfin, c'est pour ça, bon, ça faisait sourire quand on dit que on a observé l'embryon à partir d'embryons de grenouilles. Mais en fait, quand on prend des embryons très jeunes, d'un aspect extérieur,
c'est très semblable.
Et en fait, est-ce que bah, le fait génétiquement, la nature ne corrige pas elle-même des erreurs qui seraient très importantes et en fait qui ne seraient pas. Mais alors là, c'est plus un regard biologiste. C'est est-ce que l'âme ne serait pas faite. Elle serait pas capable d'assumer une matière qui serait trop animale et pas assez humaine.
Oui.
Et en fait, il y aurait un avortement naturel.
Oui.
Alors, est-ce qu'en fait, l'âme viendrait pas après, en fait, quand l'organisme est capable de...
Quand déjà le caractère spécifique par rapport à l'animal est net. Et ce serait quel moment, ça?
Bah, ce serait...
Il y a un moment où le frère Olivier a parlé d'une chose qui, je pense, est importante. D'ailleurs, on a dû le voir sur les schémas. Pendant un certain temps, je ne sais plus exactement jusqu'à quel moment, la face, si on peut
appeler, la face, de
l'embryon a vraiment une forme, enfin, vraiment quelque chose. On a du mal à penser que ça va donner un visage. Et au bout d'un certain moment, il y a vraiment un moment où on voit le visage qui s'humanise.
Ah oui.
Il vraiment prend une... Et c'est relativement tôt, je dirais, puisque je crois que c'est autour de... Oui, c'est autour de la 6-7e semaine. Donc c'est quand même très très tôt. Ça fait un mois et demi après la fécondation. Donc, c'est quand même très tôt. Et le visage prend vraiment... ça se voit entre autres sur des photos intra-utérines où on voit vraiment un visage humain. On voit vraiment une différenciation par rapport à l'animal, je dirais.
C'est la figura. Alors quand le vieil Aristote dit que c'est la figura qui nous met la note spécifique, oui, c'est bien ça.
Et en fait...
la figura.
Non, mais c'est vrai qu'au niveau biologique, on dit qu'à la fin du stade embryonnaire, en fait, on va parler de fœtus parce qu'il y a une humanisation de l'embryon vers l'être humain. Alors, est-ce que, en fait, c'est pas vers la 7e semaine, ce que disait frère Alexandre?
Vers la 7e semaine, oui.
D'autant plus qu'il a la plupart de ses organes sont déjà bien avancés. Hein, le cœur, le cerveau, à la 8, 9...
En plus, pour ce qui est du moment où la mère peut s'apercevoir qu'elle est enceinte, ça ne correspond pas à ce moment-là?
Oui, en plus. Oui, souvent, la mère s'en aperçoit.
15 ans,
oui. Oui, souvent, ça s'en aperçoit tard. Ça peut arriver même que ce soit plus tard que ça.
Tu soutenais ça, c'était autour de 1 mois et demi.
C'est 1 mois et demi, oui, mais il y a même des cas où la mère s'en aperçoit d'un mois et demi. Parce que l'implantation peut provoquer des petites hémorragies. Le fait que le blastocyste s'implante, ça peut provoquer une petite hémorragie, donc la mère a l'impression d'avoir la menstruation normale, bon, plus faible que d'habitude, mais enfin bon, c'est jamais très très... Et du coup, ça fait 1 mois de plus, et on peut arriver à des cas jusqu'à 2 mois, voire 2 mois et demi, la mère s'aperçoit que elle attend un heureux événement.
Est-ce qu'on peut discerner un comportement de l'embryon au niveau de ses mouvements, de ses gestes? Et est-ce qu'on peut distinguer un comportement d'un embryon proprement humain? Est-ce qu'il y a un comportement spécifique?
L'embryon, peut-être pas, le fœtus, certainement.
Non.
Mais... Non. Non. Enfin... Non. Je m'appuie sur une expérience personnelle que j'ai vécue et qui est connue. Par l'intermédiaire d'une de mes sœurs. Qui s'amusait plus qu'autre chose, je dirais, sans en faire une règle précise, à écouter différents types de musique. Et bon, c'était... ça devait être autour de... Bon, elle devait être à 6 mois, quelque chose comme ça. Et elle sentait bien qu'il y avait des réactions par moments où il était très agité. C'est mon premier neveu qui est assez... très vivant. Et lui mettre certaines musiques douces, elle s'apercevait qu'il était plus calme, qu'il se calmait. Alors bon, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas, ça c'est un autre problème. C'est simplement une constatation.
Est-ce que l'animal ne réagit pas de la même manière?
Ah, je ne sais pas, je pourrais voir.
Faire l'expérience avec l'éléphant.
Oui, c'est vrai, effectivement. Donc ce serait proprement une réaction, je dirais, biologique.
Ça peut être.
Ça peut. Ouais.
C'est pas, autrement dit, c'est très difficile, la vraie.
Très difficile.
Pff, là, là. Non, mais...
Les neurones du cerveau. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer le premier instant de...
On voit
le mouvement de côté de père et de côté de mère, c'est-à-dire que tout se passe dans le sein de mère, mais on voit le mouvement qui nous manifeste certains aspects qui sont propres au vivant, c'est-à-dire on n'est plus les premières appréhensions de conception. On voit le mouvement, et est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement sans poser un principe au niveau philosophique, végétatif? Est-ce qu'on peut expliquer ça sans poser ce principe, c'est-à-dire purement d'une côté matérielle de vie?
En fait, est-ce qu'on peut expliquer le premier instant? Tu me corriges hein, si c'est pas ça. Si, est-ce qu'on peut, quand on explique le premier instant de la vie de l'œuf, à savoir la fécondation, on l'explique, là tu semblais dire, par une âme végétative. Comme ça?
Si, oui.
C'est un principe qui est source de cet mouvement.
Thomas d'Aquin, lui, parle de vice générative par une âme végétative. Tellement c'est lié à la source de vie. Donc il ne considère pas qu'il y a une âme végétative. Il considère tout simplement que le vivant a ce pouvoir d'engendrer qu'on voit chez l'animal.
Justement, je crois que si on prend chez l'animal, on voit par exemple que la fécondation, pour prendre un exemple extrême, par exemple, pour les oursins, en fait, ça ne se passe pas... ça se passe dans la mer.
Oui.
Et en fait, les spermatozoïdes vont être attirés vers l'ovule. Alors, il y a des hormones qui sont mises en jeu. Et en fait, là, c'est purement biologique, en fait. C'est-à-dire une hormone, c'est une substance chimique qui en même temps qui a une ponte ovulaire, va... guider, attirer les spermatozoïdes pour qu'il y ait fécondation. Alors après, dire.
Ça sert de milieu en quelque sorte.
Système de... En fait, ça marche avec des systèmes, les cellules marchent beaucoup avec des systèmes de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est des protéines, des molécules chimiques. Ouais. Ce sont des protéines. Et en fait, c'est par des systèmes de reconnaissance, d'emboîtement et de reconnaissance, que, en fait, que les cellules communiquent entre elles. En fait. Donc, je pense que ça, c'est un peu. Alors, il y a un système, il y a des hormones qui agissent. Et puis les protéines aussi qui fonctionnent par des systèmes de reconnaissance. On peut schématiser ça par des emboîtements.
Que pour les vivants, parce que ce qui m'intéresse, c'est le mouvement qu'on constate depuis le premier moment, c'est-à-dire les conditions, qu'on a le mouvement qui est assez impressionnant. Et qui après se développe, qui est un géant, et après, depuis la sixième semaine, maintenant il s'en va de plus en plus vers l'être humain. Mais depuis le premier instant, on voit quelque chose qui. On voit déjà la vie qui. Comment dire. Qui se manifeste. Est-ce qu'on peut s'expliquer juste par cet aspect biologique au niveau de constatation sans poser aucune principe.
Qu'est-ce qu'il y a dès le premier instant de la vie, on voit, enfin dès le premier instant de la fécondation, on voit qu'il y a une vie, que tout ordonné donc vers un être humain. Et est-ce qu'on peut l'expliquer autrement que par le point de vue biologique?
Un point de vue biologique implique ça dans le problème de la génération. Chez l'animal, il y a ça. C'est ça qui est. Il y a quand même ce donné qui est voulu par Dieu. Qu'il y a entre l'animal et l'homme ce qu'on appellera en philosophie le genre animal. Donc on reconnaît qu'il y a tout un aspect de la vie de l'homme qui est apparenté à le point de vue de l'animal. La vie végétative chez l'homme est ordonnée à autre chose, mais dès le point de départ, quand même, je l'ai.
Enfin, je...
Vous aviez remarqué un stade de 64 cellules. Est-ce que, justement, les cellules sont totipotentes et après, ça commence à se déterminer? Est-ce que c'est pas justement un indice d'une présence de l'âme? Parce que une détermination, un foie d'animal, il n'a pas la même chose, il n'est pas exactement le même qu'un foie d'homme. Donc est-ce que justement le début de la détermination des organes ne peut pas nous aider à poser la présence de l'âme?
Enfin, je crois qu'on ne peut pas parler de détermination des organes à 5 jours. On sait que dans le bouton embryonnaire, que telle partie va donner tel organe, mais mais l'ébauche des organes, elle se fait quand même très tard, hein. Enfin, comparativement à cette première semaine.
Non, je crois que c'est vraiment au niveau biologique, c'est-à-dire que une cellule, si on prend une cellule qui va donner le foie, enfin ou des ébauches du foie, elle est déterminée, bon, parce qu'en fait il y a un mécanisme qui est très, très complexe de mise en mouvement de certains gènes plus que d'autres, au détriment d'autres. Est-ce que c'est...
Et puis quand même que tu as donné aux parents une capacité d'engendrer. Et donc, dès le point de départ, c'est différent de l'animal, mais c'est pas constatable. Mais je crois qu'on peut pas, dès le commencement, dire, même si c'est différent pour l'animal que l'âme est présente, du fait que, c'est la fameuse parole des anciens, l'homme provient de l'homme et du soleil. Nous disons, l'homme provient de l'homme et de l'intervention de Dieu. Dans le plan de Dieu, la coopération des parents et de lui créateur est dès le point de départ, mais elle n'implique pas la présence de l'âme. Intentionnellement, c'est suffisant.
C'est jusqu'à quelle semaine il n'y a plus d'avortement naturel?
Il va y en avoir tard, je crois. Mais plus ça se fait tard. Enfin, je suis pas très sûr de ce que j'avance, hein. Mais plus ça se fait tard, plus c'est dangereux pour la mère. C'est-à-dire plus il y a des... des risques importants pour la mère. Plus c'est
pour la quoi pour, le...
pour la mère.
Ah oui, oui.
Mais les avortements naturels, je sais pas, je crois que ça peut aller jusqu'à... Tous les avortements résultant de mauvaises implantations, c'est jusqu'à 2 mois, autour de 2 mois.
Mais toute la fausse couche.
Ça peut aller plus loin, je pense. Ouais, ça peut aller assez tard.
À partir de quel jour le cœur commence à battre?
25e.
3 semaines.
28e.
Oui, 25e jour. Mais c'est pas un cœur, hein. C'est une veine qui est un petit peu c'est la veine aorte, ce qu'on appelle la veine aorte, qui est un peu gonflée, qui va se différencier, qui va acquérir des
pulsations,
différentes cavités, etc. Mais disons qu'il y a un battement, on décèle un battement cardiaque autour de 25, fin de 3e semaine, début de 4e semaine.
Le sang est uniquement le sang de la mère.
Bah, disons que le sang, il est produit par les comment ça s'appelle ? C'est au niveau des os, au niveau des extrémités des os, dans la moelle rouge, ce qu'on appelle la moelle rouge, c'est là qu'est sont produits les globules rouges.
Et qui se produit assez vite.
Donc c'est assez vite, mais quand même, il faut qu'il y ait une ossification, et l'ossification du fœtus se fait, je ne sais plus exactement quand, mais c'est relativement tard, parce que pendant très longtemps, le fœtus n'a pas d'eau,
n'a pas d'os, oui.
Il y a surtout des cartilages, et après, il y a des centres d'ossification.
Et les cartilages ne sont pas source de sang.
Les cartilages ne sont pas source de sang. Pendant très longtemps, le fœtus reste dépendant du sang de la mère.
On peut dire que le cœur acquiert sa structure définitive. J'ai mes antisèches. La sixième semaine. Il acquiert sa structure. Bon, ça veut.
La sixième semaine,
par exemple, la septième semaine, les veines vont se former. En fait, le système cardiovasculaire complet est présent tard.
La sixième semaine.
D'autant plus que dans le sang, le sang qui vient de la mère, il y a les nutriments, enfin les nutriments, et en plus toute son immunité vient par le sang de la mère. Cette immunité, il l'acquiert.
À quel moment ne parle-t-on plus de téléodome?
De
le téléodome.
Joker.
Oui, tu appelles ça, c'est quoi?
C'est un mot qui me dit quelque chose, mais
la théolodomie. Mais je sais plus ce que c'est.
Mais oui, c'est le sens qu'il y a une détermination vers la finalité. Alors à la place de finalité, on dit télonomie. C'est dans la loi, la détermination de voir qu'il y a quelque chose qui est orienté.
Oui.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas. C'est une espèce de. Un appétit. Les scolastiques diraient un appétit naturel. Est-ce que ça t'en appellerait un appétit naturel?
Ah oui, c'est pas au sens biologique. Non, c'est au sens philosophique. Ça non.
C'est pas biologique. C'est pas biologique, on va parler.
À partir de quel moment le développement n'est plus une conséquence purement biologique?
C'est difficile de dire que le biologiste, il regarde vraiment la causalité matérielle.
Oui.
Alors, ce qu'on appelle l'épigénèse, quand on prend deux jumeaux qui ont le même chiffre biologique, si on les élève ensemble juste après la naissance, ils vont être très semblables. Si on les sépare dès la naissance et qu'on les élève
différemment,
ils vont devenir dissemblables. En fait, si on regarde d'un point de vue biologique, en fait, c'est toujours ordonné vers une construction. Parce que en nous, les cellules, bon, frère Alexandre parlait tout à l'heure des cellules, des neurones qu'on gardait pendant toute la vie. Mais en fait, on reconstitue notre tube digestif très régulièrement. Hein. Enfin, on a des millions et des millions de cellules qui meurent chaque jour et qu'on reconstruit. Enfin, biologiquement, on continue à construire.
On se construit, mais certaines cellules, on les construit pas.
faut que le corps soit complètement formé avant que l'âme apparaisse, avant qu'il n'y ait création de l'âme. Qu'allons-nous dire du cas des monstres?
Si on pense qu'il faut que pour que l'âme apparaisse, enfin soit infusée dans le corps, que s'il faut que le corps soit formé, que les membres soient développés, est-ce qu'on peut dire que les monstres ont une âme?
Venez, si on fait par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, la septième semaine.
Il y a des monstres qui ont un système nerveux, qui ont un cerveau, qui peuvent raisonner, et ils ont un aspect extérieur entre guillemets repoussant, mais...
L'aspect monstre va apparaître à quel moment dans...
Il peut démarrer très très tôt. À deuxième, troisième semaine, de toute façon, après, a priori, c'est des malformations qui sont locales. Mais les vraiment monstruosités, c'est-à-dire... Alors, il y a beaucoup de monstres qui meurent à la naissance, quelques jours. Par exemple, l'anencéphalie, l'enfant qui n'a pas de cerveau, il meurt, parce que de toute façon, il ne peut pas subvenir à ses besoins, puisque c'est le cerveau qui gouverne tout, il ne peut pas... Heureusement, il meurt très vite. Mais il y a effectivement des cas de monstruosité d'enfants qui peuvent vivre. Alors souvent, ils meurent. C'est souvent des personnes qui meurent à l'adolescence ou des choses comme ça. Mais ils ont quand même, ils vivent de 10, 15, 20 ans, quoi.
Moi, je crois aussi que c'est quelque chose de très réduit. Alors, on peut pas en tirer une conclusion quant à quelque chose qui est plus global. On ne peut pas généraliser à partir du cas du monstre, parce que le monstre, on considère qu'il y a 1% d'enfants mal formés à la naissance.
1%.
Dans ces 1%, il y en a très peu qui ont des malformations. Enfin, très peu, c'est 1 sur 3000 pour certains cas, ou 1 sur 30 000 pour d'autres malformations. Donc c'est vraiment, pour le biologiste, c'est vraiment, le biologiste l'appelle le monstre, parce que justement, c'est un cas qui est très particulier.
Et il y a une autre chose, c'est que, par exemple, il y a un cas de monstruosité où les enfants qui naissent avec les mains qui sont greffées au thorax et les pieds greffés au bas du thorax aussi. Et c'est vrai que d'aspect extérieur, on peut le qualifier de monstre, mais il a un cerveau, il peut raisonner, il peut vivre, il a une autonomie. Je crois qu'il est monstre parce que pour nous, c'est sûr qu'il n'a pas des jambes, des bras, il n'est peut-être pas. Pas très 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 chouette entre guillemets, mais c'est pas très très homme.
C'est chouette, la figure.
Mais je crois que c'est
uniquement la cause matérielle.
Oui, exactement. Et puis à quel moment on dit c'est un monstre, c'est pas un monstre, quoi.
Ah oui, c'est ça qui est très difficile.
Je crois que c'est là le.
Ouais. Du point de vue éthique, justement quand ils naissent, ou même avant, pour le diagnostic, est-ce qu'il y a le droit à un avortement? Est-ce qu'ils ont...
Disons qu'il y a certains enfants qui vont naître, et on sait, par exemple, le cas de l'anencéphalie, on sait très bien qu'il mourra 2-3 jours après.
Ça, c'est évident. Oui, ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire?
On peut pas donner un avis global. Enfin, je crois que pour des cas très particuliers, on peut pas légiférer sur du global. Enfin, même au niveau biologique, on peut pas dire à partir du moment où il y a une trisomie 21 qui est un mongolisme, qui est très poussé, on va avorter, on va pas avorter. Enfin, même le biologiste ne se sent pas le droit de dire on va légiférer à partir de ce cas-là. Je crois que par exemple, pour prendre le cas de l'anencéphalie que citait frère Alexandre, le biologiste va dire si la mère n'est pas du tout capable de supporter, de voir qu'elle peut un peu perdre l'exemple que vous preniez avec cette sage-femme de ce monstre en Suisse, si on sait que la mère ne le supportera pas, c'est vrai que le biologiste va être tenté de dire autant qu'il y ait un avortement. Mais sinon, autant laisser la nature.
Laisser la nature, oui.
Parce que souvent, elle fait bien les choses, quand même. C'est vrai, tous les avortements naturels qui se font, je crois que la nature fait une sélection parce que
c'est sûr.
C'est une sélection naturelle, hein, et on le voit partout, pour tout, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, c'est pareil. Je crois que.